voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Quelle réponse a apporté à la colère qui gronde dans certains pays d'Europe, dont la France, contre certaines mesures décidées par les autorités pour lutter contre le coronavirus qui progresse ? Les débats dans un instant. Pour maintenant, écoutons notre invité décryptage sur la dette du Gabon.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Meïs Moussi, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes économiste gabonais. Vous avez récemment publié une tribune sur la dette publique de votre pays, le Gabon, qui vous inquiète. Comment le taux d'endettement a-t-il atteint 72 à 76% du PIB en 2020 contre 59% en 2019 et 39% en 2015?
L'augmentation du taux d'endettement est la conjugaison de plusieurs choses. Tout d'abord, sur l'année 2020, il y a eu une contraction du PIB. Le taux d'endettement étant le résultat d'une division entre l'encours de la dette et le niveau du PIB. Donc, lorsqu'il y a une contraction du PIB, effectivement, ça impacte l'encours de la dette. Mais plus largement, lorsqu'on regarde l'évolution de la dette sur une période de 10 ans, entre 2010 et 2020, on se rend compte que l'encours de la dette a augmenté de l'ordre de 5 000 milliards. Et de mon point de vue, cela s'explique premièrement par un recours massif à des emprunts internationaux, alors qu'en même temps, le niveau de recettes de l'État pour faire face à ces obligations est resté plus ou moins stable, voire a légèrement baissé.
Et vous dites que pour la première fois depuis une trentaine d'années, le taux d'endettement du Gabon a dépassé le seuil de 70% du PIB autorisé par l'organisation sous-régionale qu'est la CEMAC?
Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'au sein des deux zones économiques qui utilisent le franc CFA, il y a ce qu'on appelle des critères de convergence.
C'est-à-dire la CEMAC et l'UEMOA.
CEMAC et l'UEMOA, qui sont les deux zones économiques qui utilisent le franc CFA, ont toutes les deux un critère de convergence de premier niveau qui limite la dette au maximum à un taux de l'ordre de 70% du PIB. Et ce taux, au cours des 10 dernières années, des 20 dernières années et même des 30 dernières années, n'avait jamais été dépassé par le Gabon qui avait toujours respecté ce critère de convergence. Et en 2020, pour la première fois, le Gabon est au-dessus du critère de convergence et donc a dépassé la limite maximale autorisée. Ça démontre effectivement que la maîtrise de l'endettement du Gabon au cours des dernières années, notamment sur la dernière décennie, n'a pas été suffisamment rigoureuse.
Mais est-ce que la pandémie à laquelle le Gabon, comme d'autres pays du monde, fait face, ne peut-elle pas justifier cet emprunt massif?
La pandémie explique effectivement en partie l'augmentation de la dette sur une année. Mais justement, pour ne pas rester focalisé sur cette année, il est bon de regarder l'évolution de la dette sur une longue période. Et la pandémie n'ayant eu d'impact aujourd'hui mesuré que sur l'année 2020, on peut très bien constater qu'avant l'année 2020, par exemple en 2016, le taux d'endettement du Gabon était déjà passé à 64%, alors qu'en 2009 ou en 2010, il était autour de 20%. Donc il avait déjà augmenté de 40 points. Et donc en réalité, la crise est venue amplifier une dynamique qui était déjà antérieure à la crise.
À quoi ont donc servi les prêts contractés par le Gabon avant la crise sanitaire?
C'est la grande question que je pose au gouvernement gabonais, aux parlementaires qui votent la loi et qui en réalité votent également l'emprunt et autorisent les emprunts pour l'État. À quoi a servi l'endettement? Parce que avec du recul, le recul des données, on se rend compte que les emprunts n'ont pas été créateurs de richesses. Parce que si les emprunts avaient été créateurs de richesses et donc avaient été utilisés de façon à accroître le PIB du pays, l'impact de la dette et la charge de la dette auraient été plus faibles parce qu'en face, on aurait eu une forte augmentation des
recettes.
Peut-être
qu'il y a eu des gros investissements en termes d'infrastructures diverses.
Je suis gabonais, je vais assez régulièrement au Gabon et ce serait abusé de dire que je vois ces investissements. En réalité, les investissements qu'il y a eu, il y a eu quelques gros investissements qu'on identifie surtout dans l'organisation de compétitions sportives. Il ne faut pas oublier que le Gabon a organisé deux Coupes d'Afrique des Nations, dont on estime qu'elles ont coûté à peu près entre 800 et 900 milliards aux contribuables. Donc une partie de la dette est partie dans l'organisation de ces Coupes d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, de toutes les façons, il est très difficile pour le Gabon de s'en sortir sans un concours international.
Ça limite les capacités d'intervention de l'État.
Cela limite très fortement les capacités d'intervention de l'État. Cela a un impact sur la politique sociale de l'État et c'est un facteur aggravant de la pauvreté dans nos pays. C'est en cela qu'il faut surveiller l'endettement. Évidemment, il faut s'endetter, mais il faut rester dans des limites d'endettement raisonnables.
Quelles sont les solutions possibles aujourd'hui pour réduire la dette du Gabon ?
La première solution est de trouver les mécanismes pour augmenter les recettes de l'État. Par exemple, en ayant une fiscalité beaucoup plus attrayante et des mécanismes de collecte de taxes et d'impôts beaucoup plus optimaux mais beaucoup plus efficaces. Il faut réduire les charges auxquelles l'État doit faire face. Et parmi les charges, il y a les charges de fonctionnement. Dans un pays où on a un Parlement bicaméral et où les deux chambres du Parlement ont exactement la même mission, on peut en supprimer une pour n'en conserver qu'une. Une plus grande transparence dans la gestion des ressources publiques et même aussi des dépenses publiques et plus combattre les fléaux annexes qui ont un impact sur le budget d'État, notamment la corruption.
Meïs Moussi, merci beaucoup.
Merci, madame.
Économiste gabonais basé à Paris.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
D'abord, une petite annonce avant de rejoindre nos invités qui patientent au standard pour le grand rendez-vous. À partir de demain, vendredi 5 février, du nouveau dans votre émission, la nouvelle rubrique appelée la carte blanche Africa Radio remplace Décryptage, désormais diffusée du lundi au jeudi. Chaque vendredi, nous allons donner la parole à une voix pour commenter trois sujets de l'actualité de la semaine. Je vous donne rendez-vous donc demain pour le lancement. Et nous parlons ce soir du mécontentement et de la colère qui gronde dans certains pays européens contre certaines mesures de lutte contre le coronavirus. Et nos invités pour en parler sont Abel Mbouyi, président de la plateforme citoyenne FR et auteur de l'ouvrage « Qu'est-ce qu'être français ?». Monsieur Mbouyi, bonsoir.
Bonsoir Liliane.
Vous êtes à Paris, de même que docteur Sayavé Nyumou, chirurgien, expert de l'Union africaine en télémédecine. Bonsoir docteur Nyumou.
Bonsoir madame.
Placide Oussou, bonsoir.
Bonsoir.
Co-fondateur du groupe de restaurants Massaï à Paris. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Alioune Tine, fondateur d'Africa Jam Center à Dakar au Sénégal. Monsieur Tine, bonsoir. Allô, Monsieur Tine, il ne nous entend pas pour le moment, mais en tout cas, il nous rejoindra pour cette émission. Je vais commencer avec vous, Placide Oussou, restaurateur. Parmi les secteurs où le mécontentement grandit contre certaines mesures de restriction ici en France, il y a celui de la restauration après le secteur culturel. Certains de vos collègues menacent de braver l'interdiction d'ouvrir, disent-ils, pour attirer l'attention sur leur situation. Est-ce que vous ne risquez pas de passer pour des irresponsables, étant donné que vous n'êtes pas le seul secteur à subir les conséquences de ces restrictions ?
Bien entendu. Après, il faut prendre toute chose avec proportion et mesure gardée. Je pense qu'il faut entendre derrière ça un cri, une alerte, un SOS de ras-le-bol et de potentielle mort imminente qui court sur un bon nombre de confrères, malheureusement. Et que, pour le coup, la survie reste une question qui est un sujet imminent, où il est très difficile de se projeter à plusieurs semaines. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, le pouvoir en place ne nous donne aucune perspective dans ce sens. Donc, on ne nous dit pas si ce sera dans 3 semaines, 5 semaines, dans 2 mois.
Le Premier ministre avait déclaré qu'on envisageait l'ouverture possible ou le plus tôt possible en milieu de ce mois.
Non, mais ça, c'est très sincèrement, s'il y a un resto qui veut le mieux de ce mois, je vous invite toute l'équipe à y aller, je paye l'addition.
Comment appréciez-vous la réponse du gouvernement, celle de couper les fonds de solidarité aux restaurateurs qui braveraient cette interdiction? Est-ce que vous pensez que le gouvernement n'a pas compris votre message qui était celui que vous avez appelé un cri de cœur, un appel, un cri de détresse, un appel à l'aide plutôt qu'une volonté délibérée de défiance?
Si, je pense qu'il a entendu. Néanmoins, à leur place, je serais presque tenté d'avoir une mesure similaire, parce que si on ne met pas de mesures fermes en face, il risque d'y avoir une espèce d'anarchie qui risque de se mettre en place, et pour le coup, ça va être très dangereux pour la population. On a déjà, malheureusement, un certain nombre de confrères qui opèrent
Clandestinement,
qui du coup nous cause du tort, hein, nous qui respectons l'ensemble des choses qui seraient en les dents, etc. Malgré tout, il faut qu'on ait en tête qu'on est face à une pandémie sur laquelle on n'a encore pas assez de recul scientifique, hein, et je le dis sous le contrôle des scientifiques ici présents, mais pas assez de recul, et s'il y a un risque quelconque, moi, je fais en sorte de ne pas le prendre, ce risque. Même si après, si dans 10 ans, X ans, X mois, on me dira finalement le risque était minime et il n'y l'avait pas. Mais au moment, à l'instant où on se parle, pour moi, le risque est fort. Et donc, je préfère ne pas le prendre.
Merci beaucoup. Monsieur Abel Mbouyi, vous venez d'entendre, hein, Monsieur Oussou dire qu'il comprend leurs collègues, mais en même temps, il comprend aussi la réponse plutôt ferme des autorités. Mais est-ce que la conséquence de cette situation n'est pas aussi d'arriver à cette ouverture clandestine dont il parle, qui peut justement, si elle se multiplie, échapper au contrôle des autorités?
Malheureusement, il y a une partie justement de ces ouvertures clandestines qui échappent déjà. Et on sait qu'il y a un certain nombre de restaurants. Il y a aussi des fêtes clandestines. Et pour corroborer les propos de monsieur le restaurateur, il est vrai qu'il y a un chiffre dont on ne parle pas assez, mais aujourd'hui en Île-de-France, c'est près d'un tiers des restaurants, soit qui sont morts, soit qui sont en approche d'une mort imminente. Un tiers, c'est un chiffre qui est vraiment énorme, qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai que c'est vraiment difficile parce que les restaurateurs qui pourtant ont fait les efforts qu'il fallait pour respecter les mesures sanitaires ont l'impression d'être les personnes sacrifiées au même titre.
C'est ce qu'ils n'ont de cesse de dire en demandant qu'on leur accorde le bénéfice de doute et qu'ils s'engagent à faire respecter les mesures sanitaires. Mais ils ne sont pas entendus pour l'instant. Ils menacent d'ouvrir en violation des règles. D'autres ouvrent de manière clandestine. Comment faire la part des choses aujourd'hui contre toutes ces options?
Alors c'est vrai que personnellement, être à la place du gouvernement, c'est vraiment difficile, sans compter que si on rajoute en plus la part de défiance de la population quant à la communication, c'est pas évident. Mais il est vrai qu'il y a un autre dysfonctionnement que l'on peut rajouter, c'est celui aussi des aides de l'État et des assurances. Parce que le gouvernement a beau répéter sur la place publique que tous les restaurateurs seraient assurés, tous les restaurateurs seraient aidés, mais on sait que lorsque l'on discute avec les uns et les autres, c'est pas toujours le cas. Certains dossiers sont rejetés, il y a des restaurateurs qui meurent tous les jours. Donc ce qu'il faudrait, c'est fait, effectivement, je pense déjà, tout à l'heure, vous avez parlé de la date de mi-janvier qui était annoncée.
Mi-février,
excusez-moi. Mais c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut plus annoncer de date. Il faut peut-être avoir une meilleure communication aussi avec les restaurateurs et déjà s'assurer que les aides de l'État promises puissent être vraiment reversées. Parce que vous avez des milliers de restaurateurs qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont encore rien touché. Et le rapport avec les assurances aussi n'est pas aussi fluide que cela. Donc déjà, l'État doit mettre un point d'honneur à honorer son engagement, c'est-à-dire faire en sorte que l'aide financière envers les restaurateurs soit vraiment assurée.
Et qu'il soit effectif, et qu'elle soit effective, cette aide.
Tout à fait.
Docteur Sayavé Nyumu, quand vous entendez ces restaurateurs menacés de défier les mesures de restriction, est-ce qu'en tant que membre de la communauté médicale, vous vous dites que c'est irresponsable? Si cela commence avec les restaurateurs, cela pourrait créer une réaction en chaîne qui finalement va rendre difficile la tâche des médecins, des infirmiers, du personnel médical qui se débat pour contenir et soigner les malades. et contenir la progression du virus?
Oui. D'un côté, on peut effectivement craindre qu'une sorte de révolte ou de résistance de la part des restaurants se contamine un peu la population et différentes d'autres couches. Mais de l'autre côté, on peut également les comprendre un peu. Et peut-être qu'on a manqué un peu de pédagogie et d'arguments scientifiques. Parce que je pense que les restaurateurs aujourd'hui, ils ont respecté en grande majorité effectivement les mesures qu'on leur avait imposées. Ils les ont respectées. Et après, on n'a pas fait effectivement des études scientifiques pour prouver que c'était les nids de contamination. Il y a même quelques études scientifiques qui ont fait et qui ont montré que certains restaurants étaient très propres et n'avaient jamais eu de système de contamination. Donc, si on n'a pas tout...
Mais les opérateurs du secteur culturel disent la même chose. Si finalement, il faut faire des enquêtes sectorielles pour dire non, tel secteur est susceptible d'être vecteur ou non de COVID-19, est-ce qu'on s'en sortira?
Sur le plan scientifique, on peut maintenant, aujourd'hui, on a suffisamment de recul, on a quelques pistes et quelques arguments qui s'approchent et qui montrent un peu plus la voie de contamination, par où ça se contamine le plus. On a même tendance à penser que ça se contamine le plus dans les familles. Ça, c'est quelque chose qui est en train de s'établir. Et donc, si on a ces données-là, il faudrait aussi... Il y a des sapeurs-pompiers qui ont fait des prélèvements dans les restaurants, dans certains endroits, pour essayer de trouver et de voir si... Et où est-ce que la contamination se fait le plus?
Ce sont donc, malgré la progression des chiffres, vous comprenez l'exaspération des restaurateurs?
Voilà. C'est en cela que je comprends un peu leur exaspération, parce que c'est des gens qui vont vers une mort certaine au niveau de leur business. Et ce business, ça veut dire retentissement social, familial et complètement. Donc, je l'ai
et des emplois menacés.
Et des emplois menacés, et des familles disloquées. Et c'est en cela que, si ils sont au devant de cette façon, pour ces raisons-là, les aides devraient, comme l'a dit le président, devraient être là.
Mais comment faire face à la progression des chiffres sur le Covid et aussi face aux nouveaux variants qui se présentent?
Alors, comment faire face? Si j'avais la réponse exacte, ça serait déjà fini. Mais vous voyez que on prend beaucoup de mesures. Mais plus on en prend, on a l'impression que plus ça augmente. Donc on a l'impression de ne pas avoir de prise sur ce virus-là. Les variants, ils arrivent, ils sont là. Plus on vaccine, plus il y a de variants.
Merci.
Ça monte.
Merci donc, beaucoup. On va, je me permets de vous interrompre parce que nous voulons écouter Aluntine qui nous a rejoint de Dakar avant la petite pause que nous allons marquer tout à l'heure. Monsieur Aluntine, vous êtes là?
Oui, je suis bien là.
Fondateur d'Africa Dream Center à Dakar, au Sénégal. Donc, à Dakar également, en début de mois, début janvier, il y a eu des échauffourées. Beaucoup de manifestants ont protesté contre le couvre-feu instauré pour tenter d'enrayer la progression du Covid-19. Vous avez estimé que ces manifestants avaient en quelque sorte, en substance, disiez-vous, raison de protester?
Bon, c'est pas exactement ce qu'on a dit. Hein. Vous savez, c'est les jeunes qui ont tendance. Je pense qu'il y en avait qui avaient marre un peu du couvre-feu, qui portaient atteinte à leur liberté, les jeunes de la Médina. Donc, ils sont sortis, ont chahuté les policiers par provocation. Et puis, j'ai l'impression, effectivement, quand les gens sont intervenus pour leur demander d'être un peu plus sages et de respecter, ils sont rentrés dans les rangs, quoi.
Donc aujourd'hui, tout est derrière...
Par rapport au premier couvre-feu, où effectivement, il faut bien le dire, hein, les policiers avaient bien tabassé les gens, avaient réprimé violemment, et tout le monde avait protesté. Et donc, cette fois-ci, quand c'est sorti, quand on a refait le couvre-feu, les gens sont sortis. Donc, il faut.
Mais le couvre-feu semblait plus accepté plus accepté que le second qui a été décrété pour la seconde vague.
C'est vrai qu'effectivement, le deuxième couvre-feu n'a pas été accepté de gaieté de cœur. Les gens respectent. Mais il y a beaucoup de protestations, hein, il faut le dire. Chaque fois que les gens interviennent, ils ne voient pas très bien si vous voulez, la nécessité ou l'impact du couvre-feu. Depuis que ça a été décrété, il faut bien le dire, hein, le nombre, si vous voulez, la propagation, ça s'étend, le nombre de Covid, ça augmente, le nombre de morts augmente.
C'est ce que le docteur Newmont.
Voilà, les gens se disent, mais tiens, le couvre-feu ne semble pas avoir d'impact réel sur...
sur la progression du COVID, de la COVID-19. Alors, à quoi bon de se soumettre à ces mesures? Merci, messieurs, pour vos commentaires. On va marquer une petite pause et on se retrouve pour la suite de ce débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle réponse appropriée apporter à la colère qui gronde dans certains pays d'Europe, dont la France, contre des mesures décidées par les autorités pour contrer la progression du coronavirus? Nous en débattons ce soir avec Placide Oussou, cofondateur du groupe de restaurants Massaï à Paris, Alioune Tsin, fondateur d'Africa Jam Center à Dakar, Abel Mbouy, président de la plateforme citoyenne FR Tous Uniques, Tous Unis. C'est une plateforme citoyenne, hein, apolitique, et auteur de l'ouvrage « Qu'est-ce que être français ?» Et enfin, le docteur Savaye Nyumou, chirurgien, expert Union africaine en télémédecine à Paris. Monsieur Placide Oussou, vous m'entendez ?
Oui.
Allô ? Oui. Au niveau de restaurateurs, comment avez-vous perçu ou compris ces menaces du gouvernement de priver ceux de vos collègues qui ouvriraient sans autorisation, de les priver des aides? Est-ce que ça a eu une incidence? Ça a dissuadé d'autres de faire la même chose, comme c'est certains de restaurateurs, comme celui de Nice?
J'espère que ça va en dissuader certains de se mettre dans une position de frondeur et d'aller en opposition et de faire courir un risque à la population. Après, comme je vous disais en introduction, ça n'exclut pas que je comprends véritablement. Quand vous êtes aujourd'hui gérant d'un établissement, salarié de ce même établissement, sachez qu'une chose, vous avez droit à aucune aide. En tant que gérant, il n'y a aucun fonds de solidarité, aucune aide n'est valable. On va aider votre structure, vous ne pouvez pas être dans les quotas de chômage partiel de vos salariés, vous êtes dans aucun processus de prise en charge. Donc, si vous êtes très bien loti et bien accompagné, vous pouvez bénéficier jusqu'à des 10 000 euros des fonds de solidarité, mais il y a un certain nombre de critères pour y avoir droit. C'était jusqu'au mois dernier la seule offre, la seule aide qui était là, qui a commencé par 1 500 euros au moment du Covid 1, qui s'est élargie à 10 000 euros au moment du Covid 2, et depuis 2 mois, ils font des annonces fortes sur une aide pouvant aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires N-1 réalisé. Mais pour ça, il faut que vous ayez fait zéro cette année pour pouvoir prétendre à une aide de 20% sur le N-1. Très clairement et très sincèrement, si l'année dernière, même période, vous aviez peu travaillé, 20%, ça vous emmène nulle part. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, 20%...
Mais qu'est-ce que vous préféreriez que le gouvernement vous autorise peut-être à ouvrir de manière, on va dire, alternée, peut-être pour vous aider à ne pas perdre, comme vous le dites, votre business, votre entreprise?
Très sincèrement, moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique. J'ai besoin qu'on puisse me dire, m'affirmer, m'attester, scientifiquement parlant, que les établissements, les ERP, et notamment les ERP de type N, donc de la restauration, peuvent être des sujets cluster. Ça, personne
mais
ne
c'est ce que le docteur Newmont disait tout à l'heure, mais je me demandais, est-ce qu'on va le faire pour tous les secteurs d'activité?
Mais je suis désolé, quand on fait une fermeture administrative, parce que c'est de ça dont il s'agit, aujourd'hui, on a une fermeture administrative, hein. C'est ni plus ni moins. C'est l'État qui décide que vous devez fermer. Donc, c'est une fermeture administrative, c'est une mesure restrictive, en tout cas qui est posée, mais qui est faite de façon arbitraire, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Mais je la conteste pas, soyons bien d'accord, hein. Je la conteste pas. Je dis juste, moi, j'ai besoin de comprendre et qu'on puisse me dire, il y a un bon nombre de vos confrères, ou même chez vous, vous avez été des clusters, il y a des gens qui sont contaminés, etc. Ok. Merci. Bon. Ensuite, idéalement, qu'est-ce qui serait intéressant aujourd'hui, ouvrir de façon dégradée, c'est pas envisageable pour tout le monde. Un restaurant de 50 couverts qui doit ouvrir, qui doit respecter 2 mètres entre chaque personne, etc. Donc, qui va avoir une exploitation à 50% de sa capacité. Donc, qui va passer à 20-25 couverts. Je suis désolé, c'est-à-dire qu'il est obligé de travailler seul, il peut employer personne. Et il ne s'en sortira pas.
Mais merci beaucoup. Abel Mboyi, si on procède comme le dit Placide Oussou, est-ce que ça n'aurait pas au moins la possibilité de réduire les dégâts? Ça pourrait peut-être réduire les pertes?
Bah oui, tout à fait, puisque si on continue comme ça, les pertes vont être terribles, elles vont être irrémédiables. C'est pas vrai qu'on pourra rattraper certaines situations. Et pour corroborer son fait, il est vrai qu'avant que les restaurants soient fermés, quand on allait dans un restaurant ou dans une brasserie, avant le confinement du mois d'octobre, on devait donner son nom. Donc il y avait une liste de l'ensemble des personnes qui s'étaient attablées dans le lieu, qui étaient données comme ça, au cas où s'il y avait eu un cas de Covid, on pouvait être contacté. Moi, j'aimerais bien qu'on nous donne justement un nombre officiel de combien de personnes dans ces listes ont pu être contaminées ou pas. Ça, ce sont des données qu'on aurait pu demander aux restaurateurs, qui auraient pu nous permettre d'avoir une meilleure idée de la situation. Mais tout cela s'est fait de façon assez opaque, et c'est vrai que tous ces restaurateurs qui, pour l'immense majorité, respectent les mesures de confinement, se retrouvent vraiment en grand danger en réalité, sans compter les restaurateurs qui se suicident tous les jours, parce que aussi beaucoup de médias n'en parlent pas, les détresses familiales, les casses, les divorces, les rêves de vie brisée, c'est quelque chose auquel nous devons faire très attention, et je pense que comme en Italie, il y a la possibilité de faire des ouvertures, quitte à fermer à 18h, quitte même à durcir un petit peu les mesures, je pense que les restaurateurs sont prêts à le faire, mais il faut desserrer un petit peu le verrou, parce qu'on a besoin des restaurants pour notre économie.
Merci. Docteur Nyumou, vous partagez cette proposition. Il faut absolument desserrer les vis, alors même que les chiffres de Covid restent inquiétants, notamment en Europe et particulièrement en France.
Alors, moi, je pars toujours sur le principe qu'il faut des arguments solides et des arguments scientifiques pour prendre des décisions. Donc, il faut que les décisions soient appuyées sur quelque chose de solide. Je pense que les restaurateurs sont suffisamment consciencieux et suffisamment responsables pour se rendre compte que leur environnement est un danger et pour cela prendre les mesures qu'il faut. Alors qu'actuellement, ils ont l'impression qu'il y a un abus.
On écoutait les étudiants récemment qui affirmaient la même chose, qui disaient qu'il faudrait qu'on autorise les cours en présentiel parce qu'ils ne comprenaient pas, disent-ils, pourquoi est-ce que dans les universités, les cours sont faits en ligne alors que leurs cadets du primaire et du secondaire vont à l'école. Et ils affirmaient qu'ils sont plus responsables et plus à même de respecter ces mesures barrières. Si on part sur cette piste-là, finalement, il faut desserrer tous les secteurs, il faut accorder des mesures d'assouplissement à tout le monde.
On a des experts, des scientifiques, des arguments, des outils pour pouvoir déterminer les clusters. Vous voyez, par exemple, ce que le restaurateur vient de dire. On a mis en place des pratiques à suivre, qu'ils ont suivies. Où sont les résultats? Il faudra leur communiquer les résultats pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé et pour pouvoir, à ce moment, respecter ou pas les décisions qui ont été prises. Sinon, c'est comme si c'est de la dictature pour eux. C'est ça leur problème. Donc, il nous faut partir. Aujourd'hui, on donne souvent des clusters. On dit que ce sont des endroits de contamination, de ceci, parce qu'on a des arguments, parce qu'on a des analyses qu'on peut faire. On a des machines pour ça, des techniciens, des experts qui peuvent faire ça et nous sortir des éléments qu'on ne peut pas contester. Ça va calmer la colère. Sinon, tous les groupuscules, tous les groupes sociaux vont se plaindre et vont sortir un jour.
Merci.
Et on risque d'en arriver là. Donc, il faut vraiment que les autorités, en particulier scientifiques, qu'on sorte des arguments précis qui permettent à chacun de comprendre qu'il est lui-même un danger pour lui et pour ses proches. Mais sinon, si c'est comme ça, ça crée des problèmes.
Monsieur Lontinon, je parlais en début d'émission de manifestations contre le couvre-feu, manifestations violentes d'ailleurs contre le couvre-feu aux Pays-Bas. Il y a eu des restaurateurs genevois l'année dernière de Genève qui voulaient aussi braver l'interdiction d'ouvrir les restaurants. En Afrique du Sud, il y a eu aussi des manifestations des restaurateurs. Finalement, aujourd'hui, quelle est la réponse appropriée que les gouvernements respectifs peuvent apporter à cette colère qui n'a de cesse de monter contre les mesures de restriction?
De mon point de vue, il faut éviter de mettre les gens dans un dilemme. Ça veut dire mourir de coronavirus ou mourir de faim. Et effectivement, quand les gens sont dans ce dilemme, c'est extrêmement difficile, ça amène des révoltes et ça remet en question même certaines mesures. C'est arrivé ici au Sénégal, par exemple l'interdiction de prier, l'interdiction de certaines manifestations religieuses, de certaines manifestations familiales. Ici, par exemple, en dépit des interdictions, les gens ils font les mariages ici, ils font les baptêmes.
Ils continuent de manger ensemble dans un même plat parce que c'est le modèle de la société sénégalaise, à partager la tasse de thé.
Et tous les restaurants ne sont pas fermés ici. Les restaurants sont ouverts.
Oui, mais la réalité au Sénégal n'est pas la même qu'ici en France ou aux Pays-Bas. Absolument. Ou encore au Danemark où ces manifestations sont observées contre la pandémie, contre les mesures de restriction.
C'est-à-dire qu'il y a, comme on pourrait le dire, un seuil critique. Il y a un seuil... Une fois que vous le dépassez, les gens n'arrivent plus à supporter le confinement, n'arrivent plus à supporter certaines décisions parce que ça tape sur le système et puis ensuite...
Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter la rupture entre les autorités et les populations? Parce que cette rupture pourrait peut-être avoir une incidence sur la lutte même sur l'efficacité de la lutte contre le coronavirus. Quelle réponse?
Bon, les réponses, eux-mêmes, ils l'avaient données en se disant, mais tiens, il faut vivre avec le virus. La réponse, c'est aussi de dire qu'il n'appartient pas de façon exclusive, si vous voulez, aux médecins et aux politiques de dire voilà ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut prendre en compte aussi les gens qui sont impactés par le coronavirus et sensibiliser pour que les gens respectent les mesures barrières. C'est la chose la plus importante.
Merci, merci monsieur voilà. Aluntine. C'est aussi cette option qui vous paraît la plus adaptée face à cette montée de colère, monsieur Oussou. Laisser les gens vaquer à leurs occupations, desserrer partout et faire confiance en la capacité des uns et des autres à respecter ces mesures barrières, puisqu'il faut vivre avec, dit monsieur Aluntine.
La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que il va falloir vivre avec ce virus et on parle pas de semaines, on parle pas de mois. Et je pense qu'on va le vivre dans la durée, ce virus. Ça, c'est une certitude. Mais est-ce que, à l'heure où on se parle aujourd'hui, on est prêt suffisamment à exposer toute la population à une surexposition? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Très sincèrement, dans mon souhait le plus profond, moi, je suis un chef d'entreprise, j'ai besoin de travailler. Travailler, c'est ma vie. Ça fait 25 ans que ça m'anime. Donc, moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retravailler le plus tôt possible. Il n'y a aucun doute. Mais travailler dans des bonnes conditions.
Donc, vous dites plutôt, nous préférons que malgré la colère, les mesures, nous préférons le statu quo, les mesures restent, les mesures de restriction qui impliquent la fermeture des restaurants restent en place.
Je veux faire mon métier et je veux le faire en toute sécurité. Et si le dire, ça veut dire que dans le temps qui est le nôtre aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, et que c'est la fermeture qui prime, je serai obligé de m'y contraindre. Mais dès qu'on a un minimum de garantie, faites-nous confiance.
on est des professionnels responsables, engagés, on mettra tout comme on l'a toujours fait.
Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, vous estimez, en raison de du nombre croissant de cas de Covid.
Oui, pour l'instant, pour moi, on est encore dans quelque chose de croissant qu'on n'arrive pas à maîtriser malgré les différentes mesures. Aujourd'hui, les mesures barrières, on ne peut pas me dire qu'il y a un citoyen dans l'Hexagone ou même en Europe ou sur la planète qui n'a pas de notion de ces mesures barrières. On les a matraquées à toute la planète.
Merci beaucoup. On marque une dernière pause, messieurs. Et la suite pour la suite du débat dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Face à la colère qui monte contre des mesures de restriction imposées par les différents gouvernements en Europe pour lutter contre le coronavirus, que faire? C'est le thème de notre débat de ce soir avec Alioune Tine, fondateur d'Africa Dream Center à Dakar au Sénégal, Abel Mboui, président de la plateforme citoyenne FR, Tous Uniques, Tous Unis, Docteur Sayavé Nyumu, chirurgien, expert Union africaine en télémédecine à Paris, et Placide Oussou, cofondateur du groupe de restaurant Maasai à Paris. Je reviens à vous, Monsieur Abel Mboui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Oussou qui dit que, compte tenu de la progression et de la réalité des chiffres de contamination, il faut encore attendre pour ouvrir, ou vous vous dites il faut le faire tout de suite, il faut desserrer tout de suite pour éviter peut-être que cette colère finisse par donner lieu à une implosion, peut-être qui toucherait tous les secteurs et peut-être l'Europe tout entière.
Entre les deux, si vous me permettez, c'est-à-dire que le politique, il doit être ferme dans ses décisions et il doit avoir le courage de décider. On ne peut pas tout réouvrir, malheureusement, mais on ne peut pas non plus tout fermer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus comme lors du premier confinement d'il y a un an. Aujourd'hui, il y a la perspective d'un vaccin. On a quand même plus de données. Donc déjà, premièrement,
il faut arrêter. La perspective d'un vaccin, solution possible, mais qui ne donne pas aussi lieu à des garanties, puisque l'approvisionnement des vaccins reste un gros problème.
Ça, c'est encore un énième couac, justement, dans tout cet épisode de la Covid-19, malheureusement. Mais il est vrai que déjà, il faut que les politiques arrêtent de dire que l'on va retrouver la vie d'avant, qu'il faut en finir avec le coronavirus. La Covid-19 sera là, on ne sait pas pour combien de temps, mais il faut plutôt rechercher des modèles de société adaptés à ce virus, en fait. Parce qu'on est quand même face à un virus grippal.
Et quels sont ces modèles de société?
Eh bien justement, il ne faut pas avoir peur de voir catégorie de population par catégorie et d'où on peut ouvrir les restaurants, par exemple, on ne peut pas ouvrir les boîtes de nuit. Il faut avoir le courage de le dire, mais malheureusement, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde aussi. Mais il faut avoir le courage de le dire. Au niveau des jeunes, effectivement, on ne peut pas traiter de la même manière les facultés avec des amphithéâtres, avec des bâtiments qui sont plus ou moins bien aérés, avec des écoles privées ou autres. Mais il faut avoir le courage de trancher et trouver des solutions alternatives, parce que sinon, vous aurez toujours des personnes qui auront l'impression de trinquer pour d'autres. Mais est-ce que nos politiques ont ce courage aujourd'hui? Telle est la question.
Docteur Nyumu, quand je vous écoute tous, vous avez des avis assez partagés. Monsieur Oussou vient de dire il faut attendre un peu avant d'ouvrir, parce qu'il faut dire qu'en France, quand même, les chiffres ne cessent de grimper. C'est la tendance en Europe et même en Afrique. Monsieur Tine dit il faut vivre avec la pandémie, le coronavirus. Et Monsieur Bouy, il vient de dire, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est comme si vous-même, tous ici, n'avez pas de solution, vous n'avez pas de réponse face à cette situation à laquelle on assiste aujourd'hui, celle de la contestation de plus en plus de ces mesures de restriction.
Oui, scientifiquement, on n'a pas vraiment de... D'abord, ce n'est pas notre rôle d'essayer de lutter contre la contestation, ça c'est plus le rôle des politiques, des services sociaux.
C'est le rôle des politiques. Le gouvernement français, par exemple, n'a de cesse de dire qu'ils écoutent les scientifiques, c'est-à-dire que leurs mesures découlent des conseils que leur donnent des experts scientifiques. Donc vous êtes obligé d'en suggérer, de proposer des réponses.
Donc nous, les réponses qu'on suggère, c'est simplement de dire, voilà, la situation sur le plan scientifique, comment elle se passe. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'au niveau des autorités, tous les gouvernements ont toujours peur d'avoir tort tout seul. Donc tout le monde s'embarque dans la même voie, sans chercher à voir s'il y a à côté quelque chose d'autre qui peut être sain. Il y a un qui a dit tout à l'heure qu'on risque de vivre longtemps avec ce virus, ce qui est vrai, parce qu'il mute, parce qu'il change. Plus on l'attaque, plus il se change pour qu'on puisse...
Avec les nouveaux variants.
Avec des nouveaux variants. Si on vaccine et qu'il voit qu'on arrive à le reconnaître et à le détruire, il change sa couverture. C'est le loup qui devient un agneau pour pouvoir entrer dans la bergerie. Donc, il va le faire. Et tout le temps, il va le faire. C'est pour ça qu'il est important. Pour pouvoir résister à ça, qu'on mette l'accent sur le traitement aussi. Il faut qu'on puisse trouver des traitements qui puissent permettre aux gens de comprendre que même s'ils l'attrapent, il y a quand même des traitements qui existent. Ensuite, dans la stratification de la population, on connaît des populations qui ne sont pas tellement les cibles de ce virus, qui peuvent l'avoir, mais qui ne peuvent pas, très peu, en mourant. Il semble qu'il y a une étude de l'INC, j'ai cherché à l'avoir, je ne l'ai pas eu tout à l'heure, qui a montré que les moins de 65 ans sont moins morts cette année que l'année dernière. Il n'y avait pas de coronavirus. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a une bonne partie de la population qui résiste à ça. Et les autres, il faut les surprotéger. Et ensuite, donc, il faut chercher à traiter. Ensuite, tester, lorsque le gars est positif, traiter sans attendre quoi que ce soit. Au moins, la population verra qu'il y a d'autres solutions en dehors de rester à la maison et attendre le vaccin.
Merci.
À ce moment, on peut, dans cette classification-là, trouver, dans les tests, trouver des clusters et on ferme les boîtes de nuit parce qu'il y en a, quand les gens sont allés en boîte de nuit, ils étaient 200, ils sortent, il y en a 10 qui sont positifs, on en trouve. Mais voilà une raison pour fermer les boîtes de nuit. Mais quand on met tout le monde dans le même plat, ça crée des tensions.
Merci. Monsieur Aluntine, alors, privilégiez aussi la piste du traitement, mais en attendant qu'on en arrive là, puisque l'OMS dit, on parlait hier des propositions de traitement et de remèdes africains qui ne sont pas homologués par l'OMS. En attendant, donc, il n'y a pas de médicaments homologués et les gouvernements font face à cette hostilité contre les mesures de restriction. Comment éviter que cela n'aille plus loin et peut-être anéantisse tous ces efforts de ces gouvernements européens et peut-être compromettre aussi l'efficacité des mesures contre Covid.
Bon, s'il y a effectivement un problème qui suscite des controverses depuis que c'est là, c'est la Covid-19, ce qui veut dire que personne n'a le remède miracle par rapport à la Covid-19. Une chose qui nous préserve, c'est vraiment les mesures barrières. Il faut le faire. Parce que moi, je donne l'exemple concret de Touba. Je ne sais pas si vous connaissez Touba, le Magal.
Oui, c'est la ville sainte au Sénégal.
Exactement. Qui réunit des milliers et des milliers de personnes. Donc, ils ont pris, avec le risque d'organiser le Bakal,
qui est une grande fête religieuse annuelle, hein. Je pense que c'était l'année dernière, en octobre ou en septembre.
C'est l'année dernière, oui. Exactement, voilà, l'année dernière. Et ils ont pris toutes les mesures, respecté les mesures barrières, vraiment commandé des milliers de masques, et puis avec du gel. Mais ils l'ont fait, ça n'a pas créé de catastrophe. Tout le monde se disait, mais écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui veut dire effectivement que quand les gens prennent les mesures barrières et les respectent de la manière la plus scrupuleuse, il y a des moyens, effectivement, de freiner la propagation du virus.
Moi, merci beaucoup.
C'est ce que je vois.
Mais monsieur Nyumou, est-ce que la communauté médicale partage cette option qui serait, comme monsieur Tine le dit, de laisser les gens vaquer à leurs occupations et, alors que les médecins font face à une autre réalité dans les hôpitaux et les EHPAD?
Alors, il faut se dire une chose, on a mis, comme je disais tout à l'heure, on a mis beaucoup d'investissements ont été faits pour la recherche du vaccin et autres. Et au niveau des hôpitaux, les équipements et le niveau, aussi bien en personnel qu'en matériel, on n'a pas mis autant de moyens. Ce qui fait que, effectivement, on est rapidement débordé dans les hôpitaux. On est très rapidement débordé. Maintenant, dire qu'on laisse les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, bon, on peut le faire par tranche. en classifiant les gens les plus, par exemple, dans les EHPAD, ce n'est pas, il est hors de question de dire qu'il faut laisser les gens des EHPAD faire ce qu'ils veulent. Non, il faut les protéger au maximum, les vacciner, faire tout ce qu'il faut. Mais en dessous de cela, quand on voit que la manière dont les gens sont contaminés, que les morts arrivent, on connaît une bonne tranche de la population qui n'est pratiquement pas concernée par ça, quand on le compare aux années précédentes. Ils ont la pathologie, mais ça n'évolue pas.
Merci.
Vous voyez le cas de l'Inde. Récemment, on a dit, bon, l'Inde a atteint l'immunité collective. Ça veut dire quoi? Ils sont plus d'un milliard. Donc le gouvernement a laissé faire. Et finalement, ils vont atteindre l'immunité collective.
C'est ce que vous souhaitez face à la colère qui monte contre les mesures de restriction?
Non, je ne souhaite pas qu'on aille jusque-là à dire qu'on laisse tout le monde sortir et puis on atteint l'immunité collective. Bon, c'est peut-être un peu risqué aussi. Donc, il faut stratifier et autoriser certains progressivement en fonction des quarters, en fonction de l'état physiologique des gens.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. C'était le docteur Sayavé Nyumu, chirurgien, expert Union africaine en télémédecine à Paris. Merci à Lune Tine, fondateur d'Africa Jump Center à Dakar, à Abel Mbouyi, président de la plateforme citoyenne FR à Paris, et Placide Oussou, cofondateur du groupe de restaurant Masai à Paris. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous en direct ce soir. Et je vous annonce qu'à partir de demain, 5 février, du nouveau dans votre émission Le Grand Rendez-vous, la nouvelle rubrique appelée la Carte Blanche Africa Radio va remplacer Décryptage, désormais diffusé du lundi au jeudi. Merci d'être avec nous. Au revoir.